Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, la voiture électrique, ce sera bientôt automatique. Les eurodéputés votent l'interdiction des ventes de voitures thermiques neuves en 2035 dans toute l'Union européenne. SOS Urgence, première mesure du gouvernement pour sauver les urgences à l'hôpital du naufrage cet été. On vous les détaille dans un instant. Emmanuel Macron pilonne Jean-Luc Mélenchon, son adversaire numéro 1, porté par les sondages à 4 jours des législatives. En visite à Clichy-sous-Bois, le chef de l'État s'en est pris au programme de la NUPES. À suivre dans ce journal, le témoignage déchirant d'une écolière de 11 ans. Mia a survécu à la tuerie d'Uvalde. Elle s'est adressée aujourd'hui au Congrès américain. Vous l'entendrez. Le temps demain, les averses s'éloignent dans une alternance de nuages et d'éclaircies. L'invité politique, à 22h20, Benjamin Cauchy, ancien gilet jaune et désormais candidat du parti Reconquête dans l'Aisne. Enfin, coup d'œil aux unes de la presse avant la libre antenne.
Europe 1.
La mesure est historique. Le temps des pots d'échappement est désormais compté. En 2035, dans 13 ans, on ne pourra plus acheter de voitures thermiques neuves dans toute l'Union européenne et donc en France. La lutte contre le réchauffement climatique est devenue une urgence. Les eurodéputés ont donc voté pour un autre monde au volant. Aurélien Fleureau.
Oui, c'est une révolution qui se confirme pour l'industrie automobile. Diesel, essence, hybride, il n'y aura plus de vente de voitures neuves qui ne seront pas 100% électriques. Alors pourquoi 2035? Parce que la durée de vie d'une voiture, c'est environ 15 ans et cela permettra en 2050 d'arriver à un résultat de zéro émission de CO2. Alors la filière l'avait anticipé, mais regrette tout de même les conséquences industrielles et en termes de souveraineté, comme l'explique Marc Mortureux, directeur de la plateforme automobile.
Ça représente un très profond bouleversement pour l'ensemble de l'industrie automobile, puisque c'est la fin de ce que l'on a connu depuis plus d'un siècle avec les véhicules thermiques, y compris les véhicules hybrides. On cherche à sortir, et c'est une bonne chose, de la dépendance aux énergies fossiles. Mais il faut qu'on crée les conditions de pouvoir reprendre de la souveraineté. Et là, il y a quand même un grand défi.
Les constructeurs plaidaient pour garder une petite part d'hybride, mais ce ne sera pas le cas. Certains avaient anticipé. Renault avait, par exemple, annoncé pour 2030 son passage au 100% électrique en Europe.
Un autre vote dans le cadre de ce plan climat des 27. Et cette fois-ci, à la surprise générale, Aurélien, les eurodéputés rejettent la réforme du marché du carbone.
Oui, il s'agissait de voter la fin des quotas de carbone gratuits qui sont accordés aux industriels. Le texte initial prévoyait de les supprimer en 2030, mais un amendement porté notamment par la PPE, le parti de centre droit européen, prévoyait de reporter cette date à 2034. Pas assez ambitieux, ont estimé les Verts et la gauche. Résultat, ce sera réexaminé en juillet, tout comme deux autres textes dont la très attendue instauration d'une taxe carbone aux frontières sur les produits importés dans l'Union européenne.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Urgence pour le climat, urgence aussi pour nos urgences. À l'hôpital, des centaines de soignants, vous le savez, étaient dans la rue hier pour réclamer des moyens. L'alarme sonne maintenant depuis des semaines sur le risque de fermeture de services cet été, faute de personnel. Ce mercredi, et à 4 jours des législatives, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a apporté une première réponse pour sauver les urgences du naufrage. Quelles sont les mesures annoncées, Yasmine Akatou?
Alors, 3 mesures principales sont à retenir. D'abord, les heures supplémentaires du personnel médical et non médical seront payées double tout cet été. Les agents administratifs, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins sont concernés. On avait déjà utilisé cette mesure dans les moments de crise à l'hôpital pendant le Covid. François Braun, président de SAMU Urgence de France, s'en satisfait.
C'est une mesure qui est quand même de prendre en... considération le travail des soignants et la pénibilité quand ils veulent revenir et qui redonnent du temps pour l'hôpital.
Mais est-ce que vous pensez que ça va faire revenir peut-être des personnes qui ont lâché l'hôpital public ?
Il faut être pragmatique. Et la situation qui est devant nous, on va devoir l'affronter avec les gens qui sont là. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrête l'hémorragie.
Autre annonce, les professionnels de santé retraités qui souhaitent prêter main forte vont bénéficier de facilités pour cumuler pension de retraite et activité en parallèle. Dernière mesure, les élèves infirmiers seront autorisés à travailler sans attendre leur remise de diplôme, nous dit Brigitte Bourguignon. Une annonce qui surprend. Des infirmiers contactés nous disent pouvoir travailler directement à la fin de leurs études grâce à une attestation de fin d'études.
Yasmina Katou, le cours des actions Orpea est Lorient a dévissé en bourse ce matin, conséquence directe du scandale de maltraitance dans les maisons de retraite gérées par ces deux géants du secteur. Une vaste opération de gendarmerie a été menée aujourd'hui au siège d'Orpea et dans ses directions régionales, perquisitionnée par 200 gendarmes. Le groupe Corian, lui, est visé par 30 plaintes de familles de résidents à travers toute la France, Victor Pourcher.
Oui, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger ou encore homicide involontaire. Les motifs de ces plaintes sont multiples, avec un objectif pour l'avocate des familles, Sarah Salman, faire bouger les lignes.
Ce sont 30 plaintes qui ont été déposées le même jour dans le but d'obtenir non pas une indemnisation mais d'honorer la mémoire des personnes qui sont décédées, à savoir leur mère, leur père, et surtout de faire en sorte que la situation change à long terme et qu'il y ait une prise de conscience des pouvoirs publics et des actions concrètes qui puissent être menées.
Ce combat, Olivia Mokizeski le mène depuis 2 ans. Avec son collectif 9471, elle a poursuivi Corian avant même les récentes révélations. Selon elle, il n'y a qu'une issue pour faire cesser les abus.
Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une libération de la parole de la part des familles. Ces personnes aujourd'hui veulent que la justice fasse la lumière sur les conditions de vie ou de décès de leurs proches. Le scandale des EHPAD ne s'arrêtera que lorsqu'il y aura les premières mises en examen.
Par la voix de son avocat, le groupe Corian prend acte de ses plaintes et se dit prêt à lever tous les doutes face à la justice.
Victor Pourcher. Une information Europe 1. Dans l'affaire du refus d'obtempérer samedi dernier à Paris, nous avons obtenu des précisions sur l'identité des occupants du véhicule contre lequel la police a ouvert le feu et dont la passagère avant a été tuée. Inès, la passagère arrière, est connue de la police pour des faits d'outrage, violence volontaire en réunion et proxénétisme. L'autre passager arrière, lui, est âgé de 36 ans. Il est connu pour 126 faits. Violence volontaire, usage et trafic de stupéfiants, outrage et vol en particulier. Promouvoir le sport chez les jeunes, c'était la feuille de route d'Emmanuel Macron en visite aujourd'hui à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Mais sur place, deux choses n'auront pas échappé au chef de l'État. 1. Il foulait ce mercredi des terres très favorables à Jean-Luc Mélenchon. 2. La NUPES, l'Union de la gauche, menace la majorité présidentielle dans les sondages à Clichy. Emmanuel Macron a donc sonné la charge contre son adversaire numéro 1, Arthur Delaborde, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, à 4 jours du premier tour, Emmanuel Macron clairement en campagne. Alors que les sondages donnent la nupe de Jean-Luc Mélenchon au plus haut, le président ne s'est pas privé d'attaquer frontalement l'alliance de gauche.
Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice ou sur la police comme ceux qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est de NUPES, c'est un projet d'interdiction et de taxation. C'est un projet où il y a 20 taxations nouvelles, donc c'est pas un bon projet pour le pays.
Emmanuel Macron très offensif, mais qui joue aussi la carte de la sérénité.
Je pense que les Françaises et les Français, dimanche qui vient et le dimanche suivant, sauront donner une majorité au projet que je porte. Et je souhaite qu'ils puissent m'accompagner en donnant une majorité justement à la fois de stabilité et d'ambition pour le pays.
Et comme dans toute bonne campagne, Emmanuel Macron a longuement salué les habitants présents ici pour l'accueillir et entre les sourires et les poignées de main, il a tenté de répondre à leurs préoccupations, promettant par exemple d'aider une dame qui souhaite changer de logement ou une étudiante qui peine à s'inscrire dans la filière de son choix.
Arthur Delaborde à Clichy-sous-Bois pour Europe 1.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Un témoignage bouleversant aujourd'hui devant les élus du Congrès américain, celui d'une petite fille survivante de la tuerie de l'école primaire d'Uvalde où 19 enfants et 2 enseignantes ont été abattus au fusil d'assaut. La petite Mia Cerillo n'est pas dans l'hémicycle lorsqu'elle raconte les scènes d'horreur dans sa salle de classe par écran interposé. Cette petite fille de 11 ans explique aussi comment elle a échappé à la mort.
Il a tiré sur ma maîtresse. Il lui a dit « bonne nuit ». Et il lui a tiré dans la tête. Après, il a tiré sur mes camarades. Quand je suis arrivée au niveau des sacs à dos, il a tiré sur ma copine, qui était juste à côté de moi. Je pensais qu'il allait revenir dans la pièce, donc j'ai pris le sang de mon ami et je l'ai étalé partout sur moi. Je suis restée silencieuse, puis j'ai pris le téléphone de ma maîtresse pour appeler les secours. J'ai dit qu'on avait besoin d'aide et qu'il fallait envoyer la police dans la classe.
Tu te sens en sécurité à l'école ?
Non, je ne veux pas que cela se reproduise.
Je ne veux pas que ça se reproduise. Le témoignage d'une petite élève de 11 ans survivante de la tuerie d'Uvalde, aujourd'hui devant le Congrès américain. En Ukraine, la ville stratégique de Severodonetsk est ce soir en grande partie sous le contrôle de l'armée russe, tandis que la ville voisine de Lichychansk subit d'énormes destructions, selon le gouverneur de la région. L'ONU s'inquiète des conséquences de la guerre en Ukraine pour le monde entier. Selon Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, l'impact de la guerre sur l'alimentation et l'énergie touche maintenant plus d'1,5 milliard de personnes à travers le monde. Le procès au long cours des attentats du 13 novembre 2015 est entré aujourd'hui dans une nouvelle phase avec la première de 3 journées d'audience qui seront consacrées aux réquisitions contre les accusés, au premier rang desquels Salah Abdeslam, seul survivant des commandos terroristes. Vous avez assisté aujourd'hui à un moment clé du procès, Marion Gauthier.
Oui, la salle est pleine mais muette. Au-dessus des têtes baissées, attentives, la robe rouge et noire de Camille Hentier, elle qui était en 2015 à la tête de la section antiterroriste du parquet de Paris. Elle qui s'est rendue sur les lieux des attentats le soir du 13 novembre. Elle qui parle avec profondeur de l'horreur des faits bruts. Que retiendra-t-on de cette audience? La question est posée d'une voix douce mais ferme. Votre verdict, répond l'avocate générale, tournée vers la cour. La liste des disparus, poursuit-elle, le récit des survivants. Une somme incommensurable de malheurs qui nous ont tendu un miroir inversé. Camille Hentier détaille l'éloge de la vie face à l'éloge de la mort, le courage des soldats face à la lâcheté des assassins, la beauté des mots face à une rhétorique religieuse simpliste. Elle souligne alors l'insuffisance de la vérité judiciaire, le silence des accusés. Elle cite une partie civile. Ce procès nous a au moins permis de penser. Et justement, les avocats généraux exprimeront leur clé de lecture, dit-elle, pendant 3 jours. Ils doivent réclamer des peines à l'encontre de chacun des 20 accusés, vendredi.
Marion Gauthier à la Cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1. On vous parlait en début de journal de cette mesure majeure votée par les eurodéputés, l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves en Europe dès 2035. Tout ce qui contribue à combattre le réchauffement climatique favorise aussi la protection de la biodiversité, y compris d'ailleurs dans les océans. Toute la journée sur Europe 1, nous avons célébré la journée mondiale des océans et ce soir, on vous emmène au Cap d'Agde avec une initiative pensée pour protéger les fonds de la Méditerranée tout en maintenant l'économie et le tourisme. C'est en fait un ensemble de récifs artificiels qui va être installé au large. Les plongeurs pourront y admirer la biodiversité. Première visite avec Benjamin Péter.
On nous a dit temple, cathédrale, tout ça. Oui, ça ressemble un peu à ça quand même, il faut le dire.
L'édifice fait 105 tonnes, 7 mètres de haut, avec au sommet un dôme par lequel les plongeurs pourront entrer. C'est parce qu'on constatait de plus en plus de dégradation du corail dans l'air protégé du Cap d'Agde que la ville a décidé de sanctuariser 300 hectares depuis 2 ans et de proposer une alternative aux plongeurs, comme l'explique Renaud Dupuis de la Grand Rive, le directeur du milieu marin.
Ce fameux coralligène, ça pousse de quelques millimètres par an. Et quand on casse, c'est des centaines d'années qu'on met en l'air. Et on a créé donc la réserve marine du roc de Brescou sur 300 hectares, où là, on n'a plus le droit de rien faire. Et en même temps, on a conçu un projet de compensation, quelque part, au club de plongée pour leur réaliser un village de récifs artificiels.
Une dizaine de récifs sur près d'1 km² vont être immergés à 20 mètres de fond, sur du sable, tous réalisés par une imprimante 3D béton qui va permettre aux concrétions de s'y accrocher pour recréer un écosystème.
C'est tout rénuré et tout ça va être conquis par la biodiversité, donc des mollusques, des algues et aussi des poissons qui vont vivre dans les petites caches.
Et d'ici la fin du mois, une grande barge conduira le récif du port de Sète où il est installé jusqu'au large du Cap d'Agde, ce qui devrait permettre aux plongeurs de l'explorer dès cet été. Au Cap d'Agde, Benjamin Péter, Europe 1.
Attention à la grève à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. 1/4 des vols prévus demain ont été annulés demain matin. Les personnels de Roissy demandent des hausses de salaire. Air France a ainsi annulé 85 vols courts et moyens courriers. Le procès de Michel Platini et Sepp Blatter s'est ouvert ce matin en Suisse. Les deux anciens dirigeants du football mondial sont accusés d'escroquerie. Aujourd'hui devait se tenir l'audition très attendue de l'ex-patron de la FIFA, mais tout ne s'est pas passé comme prévu au cours de cette première audience à laquelle vous avez assisté pour Europe 1, Johan Tritz.
Oui, pourtant, tout avait bien commencé avec un Sepp Blatter arrivé au tribunal souriant et optimiste.
Si je n'étais pas confiant le premier jour, ça serait mauvais. Mais je suis très confiant parce que j'ai la conscience tranquille.
Oui, mais 2 heures plus tard, le Suisse de 86 ans se lève en pleine audience. La démarche mal assurée, il sort de la salle. Lors de son retour, c'est l'heure de son audition, mais à la surprise générale, son avocat interpelle la cour. Il va falloir repousser M. Sepp Blatter à des douleurs à la poitrine. La juge se retourne alors vers l'ancien dirigeant de la FIFA et lui demande s'il peut quand même parler. La réponse est non, je ne vais pas bien, dit-il, je ne peux pas respirer correctement, je ne me sens pas de répondre à l'interrogatoire. Une décision est prise rapidement, report de la séance à demain 8h30. Sepp Blatter répond, j'espère que j'irai mieux, mais ça devrait aller parce que je suis un lefto. Mauvaise journée pour la défense qui a perdu plusieurs batailles. Toutes ses requêtes ont été rejetées. Michel Platini doit être entendu demain, juste après Blatter.
Johann Tritz, envoyé spécial d'Europe 1 en Suisse. C'est une première. Disney décide de priver les cinémas français de son prochain film d'animation en France et seulement en France. Eh bien, il vous faudra être abonné à la plateforme Disney+ si vous souhaitez voir Strange World. Disney prend ainsi une mesure de rétorsion contre l'exception culturelle française. En France, quand un film sort au cinéma, les plateformes doivent attendre 17 mois pour le mettre en ligne contre 45 jours dans la plupart des autres pays. C'est donc la colère de Disney qui s'exprime ici. Le temps pour demain, jeudi, Marlène Duret, ce sera moins de pluie et plus d'éclaircies.
Et oui Alexandre, la perturbation pluvieuse de ce mercredi s'est éloignée. Dans son sillage, les dernières averses orageuses occupent le nord-est et le centre-est du pays en ce moment. On a d'ailleurs eu un bel orage tout à l'heure à Lyon. Et cette nuit et demain, des averses sans risque orageux cette fois pourront encore se produire entre les Ardennes, les Préalpes et l'Alsace. Ailleurs, la masse d'air tend plutôt à s'assécher, donc avec le retour d'éclaircies, vous l'avez dit. Un ciel partagé entre nuages et soleil, avec de belles éclaircies même par endroits. Ce sera le cas demain matin entre Dunkerque et Lille, mais aussi entre le Morbihan, Angers, La Roche-sur-Yon, en tout cas dans tout ce secteur. Et puis l'après-midi, on va les trouver entre la Vendée et les Landes en bord de mer. Mais la palme revient à la Méditerranée avec du grand soleil, depuis le golfe du Lion aux Alpes du Sud et à la Corse, mais aussi avec pas mal de vent. Et les températures en journée un petit peu fraîches encore, avant la hausse hein, prévue pour vendredi, samedi et dimanche.
Alors, pour le week-end quoi.
Voilà.
Pour une fois que ça tombe bien.
Oui, c'est vrai. Alors, comptez 17 degrés au Havre demain, 19 à Amiens, Guéret, Reims, mais aussi à Belfort et Annecy, 20 degrés à Paris, Dijon, Royan, 21 à Nantes et Auxerre, 22 à Poitiers, 23 à Toulouse, 25 à 30 donc en allant vers la Méditerranée avec par exemple 28 à Mandelieu-la-Napoule. Et les températures, je vous le disais, vont atteindre ce week-end une moyenne de 26-27 au nord et 31-32 au sud. Mais oui, et sous le soleil parce que c'est plutôt le soleil qui va dominer ce week-end si on exclut les petites averses attendues sur le relief des Alpes, du Massif central et des Pyrénées. Donc voilà. Si vous avez prévu de faire des petites sorties ou des
facteur
barbecues.
50, hein. Facteur 50, la crème solaire ce week-end.
Oui, l'écran total, toujours voilà. À portée de soi, à portée de main.
Merci beaucoup Marlène, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Top à Wall Street. Puis l'invité politique, ce sera Benjamin Cauchy, candidat reconquête aux législatives dans l'Aisne. A tout de suite. Top à Wall Street sur Europe 1 avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street qui rechute ce soir après deux séances de rebond. Les investisseurs s'inquiètent de nouveau de l'inflation et des hausses de taux.
Oui, l'inquiétude domine avec un Dow Jones en repli de 0,81%. 32 910 points, le Nasdaq lui perd 0,73%. Beaucoup de prudence avant les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mai. Ils seront publiés vendredi et le sujet est très très sensible. Alors que les prix aux États-Unis, après la consommation, ils sont au plus haut depuis 40 ans. Et puis prudence aussi dans l'attente de la réunion de la Banque Centrale Européenne demain. Sa patronne, Christine Lagarde, devrait préparer le terrain à une première hausse des taux directeurs en zone euro, sans doute au mois de juillet. Alors sur les marchés obligataires, les taux se tendent à nouveau. Et puis rien n'arrête le pétrole. Le baril WTI grimpe de 2,9%, tout proche des 123 $ le baril.
La séance a été compliquée, hein, Claire, pour les géants de la tech et notamment pour Intel.
Intel qui chute de 5% après une note des analystes de Citi. Et ils pensent que le fabricant de puces pourrait enregistrer des bénéfices plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre. C'est pas terrible non plus pour les autres poids lourds de la tech. Apple qui cède 0,5%. Amazon moins 1,6%. Et puis on a Twitter qui gagne tout de même 0,8%. Le feuilleton du rachat par Elon Musk se poursuit. D'après l'agence Reuters, le groupe pourrait organiser un vote des actionnaires d'ici début sur cette opération à 44 milliards de dollars. Je vous le rappelle, Elon Musk a suspendu sa proposition au motif que le réseau social ne fournirait pas d'informations sur le nombre de faux comptes.
Pas d'embellie pour le CAC 40 qui perd encore 0,8% à la veille de la réunion de la Banque Centrale Européenne.
Oui, un nouveau repli pour le CAC 40, moins 0,8%. Donc il retombe à 6448 points. La dégringolade du jour, elle est pour Korian. Le gestionnaire d'EHPAD est accusé donc à son tour de maltraitance sur des personnes âgées. Le titre chute de 9,5%, moins 3,1% pour Orpea après des perquisitions aujourd'hui au siège social du groupe. Et puis on a suivi aussi l'action Air France
annonce KLM moins 4,5% à la clôture avant une grève dure touchant l'aéroport de Roissy demain. Ailleurs en Europe, c'est le pessimisme qui l'emporte ce soir. Francfort 7,08%, moins 0,1% pour Londres, Milan perd 0,5% et Madrid s'en sort mieux. Madrid est stable et à Paris, le CAC 40 affiche un repli de 0,8% à 6448 points.
Merci à vous, Claire Lemaître.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Allez, un petit coup d'œil aux unes de la presse pour demain matin, jeudi. Macron ouvre grand les vannes sur le pouvoir d'achat. C'est la une de l'Opinion. À quelques jours des législatives, l'argent magique, écrit le quotidien, continue de couler à flot. Les mesures de compensation de l'inflation écrasent le débat. Le sujet du financement n'est jamais évoqué. Alors, est-ce qu'il faut y voir le signe d'une fébrilité grandissante de l'exécutif face à Jean-Luc Mélenchon et au vote NUPES ? Depuis 48 heures, de fait, la campagne s'accélère autour du pouvoir d'achat. Une hausse de 4% des retraites déjà annoncée cet été, une aide pour les gros rouleurs, la prolongation de la ristourne de 18 centimes d'euros à la pompe de fin juillet à fin août, le versement d'une aide alimentaire annoncée pour la rentrée aux plus modestes. En attendant, la facture, elle, reste bien secrète, écrit l'Opinion. Or, voici la fin de l'argent gratuit, c'est le gros titre de La Croix. Alors qu'emprunter de l'argent ne coûtait presque rien depuis des années, eh bien la Banque Centrale Européenne va entamer ce jeudi le processus de remontée de ses taux directeurs. Mais où est passée la droite ? S'interroge Le Figaro. Où sont passés les Républicains ? Eh bien, ils jouent leur survie aux législatives. Pour compter, la droite doit décrocher un groupe conséquent de députés les 12 et 19 juin prochains, avec l'ambition d'incarner une opposition claire et responsable à la majorité présidentielle, écrit Le Figaro. Une enquête à lire demain à la une de Libération, du Louvre aux Émirats, momie à tout prix, des acquisitions litigieuses, un rapport passé sous silence. Libé a pu consulter plusieurs documents compromettants pour l'agence France Muséum, créée pour assister le Louvre à Abu Dhabi dans la constitution de ses collections. Voilà un nouvel épisode, écrit Libé, dans l'affaire du vaste trafic d'antiquités mis au jour par la justice. On vous en parlait bien sûr en début de journal, les voitures neuves en 2035, diesel et essence seront interdits. Les seules voitures neuves que vous pourrez acheter dans 13 ans seront électriques. Les députés européens se sont effectivement prononcés ce mercredi sur plusieurs mesures du paquet climat, un ensemble de lois qui vise à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ils ont voté pour l'interdiction donc des voitures neuves à moteur thermique, essence, diesel et hybride compris. 22h03, vous êtes sur Europe 1. Nous avons échoué à joindre Benjamin Cauchy, avec qui nous avions rendez-vous, candidat à Reconquête à 4 jours des législatives. On va se retrouver dans quelques instants pour la libre antenne avec Olivier Delacroix. A tout de suite. Bonsoir Olivier. En voilà un qui ne vous laisse pas tomber dans Let Me Down.
Bonsoir,
Olivier Delacroix est avec
Alexandre.
Vous.
Ah, mais moi je suis là à l'heure tout le temps.
Vous êtes là.
Et alors je vais vous dire, moi j'ai une règle.
Oui.
Hein, et que vous devriez appliquer.
Oui.
Et d'ailleurs que vos confrères demain à la rédaction, que vous passiez le mot, ce Nicolas... Cauchy,
non, Benjamin Cauchy.
Cauchy.
Ce devait être notre invité ce soir, en effet.
Il était au courant qu'il avait... On n'oublie pas une interview sur Europe 1. D'accord ?
Ah ben, surtout pas sur Europe 1.
Quand on la plante, eh bien, on signe pour être tricard. Et donc, je serai à votre place. Eh bien, il ne reviendrait pas avant 6 mois, voire un an. Parce que nous, on a cette règle à la libre antenne. Les gens qui s'engagent avec nous, oui, ce soir, machin, tout. Et qui nous plantent, eh bien, c'est tout, c'est fini. Parce que, vous comprenez, c'est trop facile. Parce que là, je vois 5 personnes avec vous, Alexandre. Il y a des collaborateurs à vous qui ont travaillé sur cette interview. Vous avez travaillé.
C'est vrai.
Et voilà, lui, il vous plante comme ça. Alors, écoutez, Benjamin Cauchy ira faire de la compote la prochaine fois qu'il devra donner une interview à Europe 1.
Vous savez quoi, Olivier ? Moi, je vais voir le verre à moitié plein. Je crois que je vous rends ce soir, bon, le temps passe, hein, mais je vous rends ce soir les minutes que je vous ai piquées au fil des semaines.
Oui, hein, écoutez, c'est très gentil.
Vous les récupérez.
Très gentil. Mais vous savez que je vous les offre avec plaisir à chaque fois.
C'est très gentil.
Et bonté, et générosité.
Oui.
Très bien, bah, on vous retrouve quand même
à 23 heures.
Sans Benjamin Cauchy à 23 heures.
Et sans faute.
Et sans faute. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.